Petsaline FM, soir, le journal.
Nous sommes le mardi soir, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez droit à l'information et nous le devoir de vous informer. Les titres du journal. La Fondation Move Africa fait œuvre utile. Elle a doté les meilleurs apprenants et ceux démunis en kits scolaires. Au total, 100 kits scolaires ont été distribués aux élèves de la commune de Kouyogbe au collège d'enseignement général de la localité. Les détails sont à suivre. L'Institut de haute couture et de perfectionnement Chris Fashion a effectué hier sa rentrée d'apprentissage 2024-2025. En général, les nouveaux apprenants comme anciens ont répondu présent et reprennent ainsi les cours en couture, stylisme, modélisme et mannequinat. L'ex-ministre des Sports Oswald Romeki et l'homme d'affaires Olivier Boko ont été présentés au procureur de la Criette aujourd'hui. Et puis en sport, lancement hier de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive de 0 à 10 ans dans les écoles primaires publiques désignées. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a présidé cette cérémonie. D'autres informations viendront meubler cette édition mise en onde par Sévère Roubaix et présentée par Angelo Sino.
Toute l'info locale du Monokoufo sur Petsaline FM.
À nouveau, bonsoir. La Fondation Move Africa fait des heureux au Collège d'enseignement général de Kouyogbe ce mardi 1er octobre 2024. Elle a célébré l'excellence en milieu scolaire en primant non seulement les meilleurs élèves, mais aussi et surtout les enfants démunis du dit collège. La cérémonie de remise des kits et matériels s'est déroulée en présence des élèves, du personnel enseignant, des parents d'élèves et des autorités politico-administratives. Le point sonore de cette cérémonie avec Nawal Akobi.
C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la cérémonie de remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et aux enfants démunis du Sergé Kouyogbe. Plus de 100 kits scolaires ont été distribués gracieusement aux apprenants par la Fondation Move Africa. Les kits sont composés de cahiers de vrais dessinateurs, des stylos habiles griffés Fondation Move Africa. Aurore Francine Ngwedi, secrétaire exécutif de la Fondation Move Africa.
C'est toute une joie pour nous d'être au CG Kouyogbe ce jour pour célébrer l'excellence. Mais pas seulement célébrer l'excellence, nous accompagnons et nous soutenons la couche vulnérable. Ainsi, depuis le 25 décembre, la Fondation Move Africa Bénin va parcourir les 12 départements où des milliers de kits scolaires vont être distribués. Vous savez, le kit scolaire est non seulement un élément de motivation, nous soutenons, nous permettons aux parents, nous réduisons leur charge en début d'année scolaire. Quant aux enseignants, nous reconnaissons leur travail, le métier noble qu'ils effectuent. C'est pour ça, comme vous l'avez constaté, des instruments géométriques ont été mis à leur disposition. Nous avons aussi mis à leur disposition un routeur professionnel. Vous savez, ce routeur prend 32 personnes ensemble. Ils ont eu 2 mois de gratuité. Nous avons eu les représentants du ministère, nous avons eu les parents d'élèves qui étaient là. Tout ce monde-là, les enfants étaient très joyeux et c'est notre leitmotiv, puisque notre as principal, c'est l'éducation.
L'administration du CEG Kouyogbe n'a pas été laissée pour compte. Elle a reçu des kits géométriques et un routeur Wi-Fi Move avec 2 mois de forfait illimité. Le directeur du Collège d'enseignement général de Kouyogbe, Yaovi Mensan Radonou, très heureux du geste de la Fondation, exprime sa gratitude en ces termes.
Grande a été ma joie lorsque le mardi 24 septembre 2024, j'ai reçu l'émissaire de la Fondation Move venu nous porter l'information selon laquelle ce jour, il sera fait la promotion de l'excellence au CEG Kouyogbe avec un clin d'œil aux enfants en situation difficile. Ce geste constitue non seulement une motivation pour les apprenants, mais aussi une façon de saluer le savoir-faire des enseignants de ce collège qui ont travaillé à ces résultats au prix de nombreux sacrifices. Certains élèves, parce que vivant des situations un peu difficiles, auraient pu travailler Plus qu'ils ne l'ont fait, ils sont communément appelés orphelins et enfants vulnérables. Vous avez également pensé à 30 dans le rang de ces enfants. Qu'il me soit permis de dire qu'il en reste encore et à qui des gestes du genre seraient salvateurs. J'invite les parents de nos élèves, les membres de l'administration, les collègues enseignants qui consomment les produits des réseaux GSM à vibrer Move Africa afin que cette entreprise continue de disposer de suffisamment de ressources pour continuer à accompagner nos efforts et ceci sans limite.
Le président du bureau APE a reçu un téléphone portable avec 11 000 de crédit. CIEVI Honoré Azemak Bego, président APE, se confond en remerciements.
Mes impressions sont bonnes parce que depuis que nous vivons ici, à part Move, nous n'avons jamais reçu les autres pour des événements de ce genre. Donc ce que Move Africa a fait aujourd'hui, là, c'est gravé dans les cœurs et c'est gravé dans l'histoire du CIEVI de Kouyogbe, car les élèves démunis, les élèves méritants, tous ceux-là sont très contents à l'endroit de ces élèves qui ont pris ces kits-là, de tout faire pour maintenir le cap. Au CIEVI de Kouyogbe, il y a manque de mobilier accru. On n'a rien, les élèves sont à même le sol, on a 1423 élèves, 163 sont à même le sol, sont par terre, ou bien c'est des bancs ou tables bancs qu'ils tiraillent tout le temps quand le professeur n'est pas là, ou bien quand le professeur arrive, c'est pas bon à voir, ça fait pitié. Si la fondation peut nous aider au premier trimestre là, ce serait intéressant.
Le représentant des apprenants remercie lui aussi le geste et promet de toujours bien travailler pour mériter cette attention de la fondation Move Africa à la FIA Yabodé.
Je suis en classe de terminale B. J'ai pris un sac avec des cahiers, des bics. Move Africa a bien fait. C'est encouragé. Et je crois qu'on doit encourager cela. Je promets de bien faire encore pour les encourager.
La fondation Move Africa a doté la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle d'un téléphone Android. La cérémonie a pris fin avec une photo de famille dans une très bonne ambiance.
Du CEGE Kouyogbe, allons à Doutou. L'Institut de haute couture et de perfectionnement Chris Fashion 6 dans l'arrondissement de Doutou, commune de Kouyogbe, a démarré sa rentrée d'apprentissage 2024-2025 ce lundi 30 septembre 2024. Ce centre forme en stylisme, modélisme et mannequinat les anciens nouveaux apprenants et les membres de l'administration du dit centre ont tous répondu présents pour cette rentrée. Suivez le reportage de Enoch Agosu.
Nous sommes dans l'une des salles de cours du centre d'apprentissage de l'Institut de haute couture et de perfectionnement Chris Fashion à Doutou. Dans ce centre, la rentrée d'apprentissage 2024-2025 en haute couture, stylisme, modélisme et mannequinat est effective. Les apprenants de la première année, disposés devant des machines de couture, reçoivent les premiers cours. Pendant ce temps, ceux des années 2 et 3 continuent des renforcements de capacité dans les autres salles. En général, les apprenants de la première, deuxième et troisième année ont répondu présent pour la rentrée d'apprentissage prévue pour ce 30 septembre 2024. Gilles Chris Zocli, directeur de l'Institut de haute couture et de perfectionnement IHCP Chris Fashion.
C'est aujourd'hui que nous avons retrouvé tous les apprenants qui se sont inscrits au titre de cette année. Donc on a installé les apprenants de la classe de première année déjà et on a démarré ce matin avec l'historique et définition par rapport à la couture. On a commencé même quelques activités pour les points de couture à la main et après nous allons attaquer en même temps la couture à la machine avec eux. De l'autre côté, par rapport aux apprenants de la deuxième et troisième année, on est déjà sur le pantalon classique, hein, niveau élevé pour ces apprenants-là, pour dames et pour hommes. En troisième année, nous sommes déjà sur les balconnés, les bustiers à balconnés, les corsets et Victoria corsets. Et donc, ça s'est très bien annoncé.
L'engouement des apprenants de la première année pour cette formation de qualité dispensée par le centre IHCP Chris Fashion réjouit particulièrement Gilles Chris Zocli, directeur de l'IHCP Chris Fashion. Fashion.
Eux tous, ils sont présents. On a quand même enregistré quelques absences. Certainement, c'est des gens qui se préparent toujours parce qu'il faut quelques outils de travail avant de commencer. Oui, des gens continuent de venir parce que les inscriptions ne sont pas encore fermées. On va continuer jusqu'à une semaine de plus ou deux avant de fermer définitivement les inscriptions au titre de cette année.
Gilles Chris Zocli, directeur du centre IHCP Chris Fashion, n'a pas tardé de mots pour exprimer sa gratitude à l'endroit des parents d'élèves pour leur confiance sans cesse renouvelée au centre et a profité de l'occasion pour inviter les parents d'élèves qui sont toujours à la traîne à vite inscrire leurs enfants pour qu'ils puissent rattraper le train en marche.
Je ne peux que remercier sincèrement les parents de nos anciens apprenants et de nos nouveaux apprenants qui ont mis depuis longtemps leur confiance en nous et leur confiance aussi en notre centre de formation et par rapport à notre rigueur au travail et par rapport à la qualité du travail que nous faisons depuis quelques années. Donc on leur dit merci pour cette confiance renouvelée. Pour ceux qui sont toujours derrière en train de traîner les pas, on leur demande de vite venir s'inscrire pour ne pas être trop en retard. Mais de l'autre côté, on n'aura plus de place, on sera obligé de clôturer les inscriptions.
Les apprenants du 10 centre reçoivent déjà des modules de formation qui sont heureux d'effectuer leur formation dans ce centre de référence. Témoignage.
J'ai commencé la rentrée parce que je veux étudier la couture et connaître à créer.
Tout est bon, j'aime et avoir la capacité de créer et d'imaginer.
On a commencé bien. Je me suis inscrite ici juste pour avoir la bonne foi et pour bien travailler.
Nous avons démarré les rentrées à Chris Fashion aujourd'hui. On a bien commencé l'année en beauté. Les cours ont bien démarré.
On a commencé la rentrée aujourd'hui. On a bien commencé. Nous qui sommes en troisième année, on a commencé par le balconnet. Les encadrés nous ont déjà lancé et nous sommes en train de travailler et les trucs vont bien.
Notons qu'à IHCP Chris Fashion, les apprenants font 24 mois de cours théoriques et pratiques qui sont sanctionnés par un certificat d'apprentissage.
De Ruyagbe, rendons-nous à présent à Bopa, l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa UDAB et la Fondation BOA en guerre contre les problèmes visuels en milieu scolaire. En témoigne la présence des responsables de ces deux partenaires hier matin à l'école Urbaine Centre de Bopa. Ils étaient accompagnés pour la circonstance d'une équipe d'ophtalmologues venus du Maroc. Voici le point avec Charlène Kendiro.
Permettre à tous les apprenants de l'école urbaine centre de Bopa de poursuivre leur cursus scolaire sans anicroche, c'est dans cette perspective que l'UDAB et la Fondation BOA ont décidé de faire des consultations ophtalmologiques aux élèves du 10 centre. De cette consultation foraine, il en ressort que plusieurs enfants traînent des maladies. Cet état de choses pourrait impacter négativement leur cursus scolaire. Isidore Ginou, président du bureau de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa.
Dans notre arrondissement, nous voudrions que les enfants apprennent dans de bonnes conditions, d'où la réflexion des locaux. Et il faudrait que les enfants soient sains, qu'ils essaient quand même d'avoir une vue nette pour pouvoir apprendre, examiner les enfants pour voir les malvoyants, essayer de leur faire des lunettes. Donc les enfants dont les parents ne sont pas nantis pour pouvoir leur confectionner des lunettes, la BOA se charge de confectionner toutes ces lunettes-là. Après le diagnostic, les enfants qui sont vraiment dans le besoin de lunettes seront au vu.
Cette opération spéciale a permis de consulter, d'examiner, de diagnostiquer des apprenants afin de trouver des solutions idoines à ceux qui traînent d'éventuels problèmes d'yeux. Venu du Maroc spécialement pour ces enfants, l'ophtalmologue n'a pas manqué de clarifier le bien fondé de cette activité. Docteur Hilal Bouzid, ophtalmologue.
Un enfant du rural, assis sur un banc, s'il ne voit pas bien, il ne peut pas aller loin. L'enseignant, il a 50 ou 60 élèves devant lui. Il est absolument impensable et impossible qu'il puisse mesurer la vision de chacun. L'enfant va avoir de mauvaises notes. Et en ayant de mauvaises notes, à la fin, il va abandonner ses études. On va leur faire une réfraction. Une réfraction, c'est avec un appareil automatique. On prend la mesure de la puissance, s'ils avaient une pathologie, la puissance des verres. On fait, à ce moment-là, une mesure subjective. Surtout chez les enfants, parce qu'ils ont un pouvoir accommodatif qui est très fort. Ils peuvent très rapidement corriger d'une certaine manière une myopie ou une hypermétropie, même sans lunettes, jusqu'à un certain degré. Mais cette myopie ou cette hypermétropie, si on ne la corrige pas assez tôt, ça va se dégrader progressivement. progressivement. Et cette capacité accommodative qu'ils ont, elle va disparaître. Et à ce moment-là, l'enfant, il devient vraiment un handicapé. Alors donc, l'objectif, c'est de leur donner des lunettes pour voir à égalité avec les autres enfants. On s'assure comme quoi c'est la dernière qualité de verre, la meilleure qualité de verre optique, mais en même temps incassable.
Notons que cette expérience pourra donc permettre en ce début d'année de corriger l'acuité visuelle des élèves en difficulté.
Au plan national, la FSS organise du 1er au 5 octobre 2024 la Journée scientifique des sciences de la santé. Cet événement, qui est à sa troisième édition cette année, est placé sous le thème « La FSS face aux défis contemporains, un moment de réflexion, de dépistage des maladies chroniques et de partage de médicaments à la population ». Cette journée scientifique va se dérouler en deux étapes, si on s'en tient aux propos de Angèle Azan, vice-doyenne de la Faculté des sciences de la santé FSS.
La première étape est le pré-congrès. En effet, il y aura des conférences grand public qui vont se dérouler sur place à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, dans le Grand Amphi. Ensuite, et parallèlement à ça, il y aura une équipe sur place pour le dépistage des maladies chroniques, dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète, de la drépanocytose, de l'hépatite virale, du VIH. Et puis aussi, il y aura parallèlement un don de sang.
Oui, il y a la recherche scientifique, donc qui est en rapport avec le congrès même, mais il y a la responsabilité sociale de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, qui consiste à s'intéresser aussi à la santé de la population. À savoir, on fera des consultations médicales foraines, plus précisément à l'OPODI. Donc, il y a une équipe de médecins, toutes spécialités confondues, qui sera dépêché sur place. Donc, ils sont déjà allés aujourd'hui pour la mise en place de la logistique. Ça va être la consultation. Donc, on verra toute la population, en tout cas tous ceux qui viendront sur les lieux, on pourra les consulter gratuitement et leur donner des médicaments gratuitement. Le but, c'est de permettre aux populations déshéritées de la zone d'avoir accès à un traitement, à une prise en charge de qualité. Donc, c'est une manière de se déplacer vers eux pour s'intéresser un tant soit peu à leur santé aussi, comme ceux de Cotonou qui sont plus proches des spécialistes.
Toujours dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, en 8 ans de gouvernance, le chef de l'État Patrice Talon a mené des réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur à travers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces réformes ont impacté plusieurs domaines d'activité. La restauration dans les universités publiques n'a pas été épargnée. Cette restauration a connu une amélioration selon les propos de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Éléonore Yahi Ladekan, qu'on écoute.
Ce que je peux dire, c'est que tout évolue très bien. Parce que en ce moment-là, je donne juste un indicateur. Nous étions dans les cuisines avec du bois de chauffe, beaucoup de fumée. Et vous savez bien ce que cela implique. Et avec la rupture, nous avons tourné définitivement cette page. Les cuisines sont très améliorées et il n'est plus question d'utiliser du bois de chauffe. Donc, la qualité des bonnes dames qui servent vraiment à la cuisine s'est améliorée. Aussi bien sur le plan des visites et des contrôles réguliers du port, des masques, etc. Mais sur la quantité est de... Parce que c'est un grammage, au fait. C'est un grammage et c'est une planification immense. Le taux de service s'est amélioré. Avant, c'était à 5%, mais facilement, nous avons abordé les 10%. Les 10% par rapport à ceux qui viennent réellement visiter donc nos restaurants. Les prix n'ont pas changé. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'on dise qu'on a augmenté les prix. Non, on n'a pas augmenté, malgré qu'il y a les denrées qui ont connu du renchérissement et que des inflations de temps en temps, que la qualité et tout ça là augmente, ça nous y tenons. Et puis, même le mode d'approvisionnement est progressif. Avant, vous savez, on les entrepose dans les magasins et c'est ça justement qui donne accès à ces invités indésirables.
Le gouvernement, soucieux d'améliorer davantage le service de la restauration, envisage de rapprocher les restaurants des étudiants. Éléonore Yahi Ladekan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous en dit davantage.
Donc, Pour le côté restauration, nous n'allons pas dire que c'est Eldorado, parce que nous voulons toujours ce qui est bien pour nos enfants. Et c'est pour cela que déjà, le chef de l'État et son gouvernement ont prévu d'améliorer la pratique donc de service de repas dans les restaurants. Et déjà cette année, nous allons commencer avec une autre façon de servir le repas à nos étudiants. Et ça va, vous savez un peu ce qui a été fait au niveau du porc. Donc, ça, c'est vrai que c'est un autre sandine. Quand on va ramener cela à l'échelle universitaire, nous allons également faire en sorte qu'il y ait de bons hangars. Très bien, et qu'ils soient vraiment installés un peu partout. L'objectif étant quoi? De permettre aux étudiants de ne pas trop attendre avant de manger.
D'accord.
Donc, et d'avoir des hangars proches de leurs entités. Ils sortent, ils mangent, ils continuent leur formation.
À la question de savoir si aujourd'hui nous avons fini définitivement avec les surcharges dans les cabinets des étudiants, Éléonore Yahi Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, répond.
On ne peut pas dire qu'on a définitivement fini, mais on a amélioré. Et d'ici encore la fin de l'année et les années qui viennent, nous allons définitivement finir avec ça. Mais ce qui est bien, c'est que là où vous avez des surcharges à exploser même la vie au sein de la résidence, cette surcharge-là est déjà conjuguée au passé. Et nous avons prévu maintenant de mettre les apprenants, les résidents, dans de très bonnes conditions en faisant appel à des structures étatiques, telles que la CIRAD, vous connaissez la CIRAD, qui va prendre en charge vraiment les résidences et nettoyer ces résidences de ce qui est impropre et mettre les apprenants dans de très bonnes conditions d'études.
Oui.
En plus, bref, à présent, l'ex-ministre des Sports, Oswald Homeki, et l'homme d'affaires, Olivier Boko, ont été présentés au procureur spécial de la Criette ce mardi 1er octobre 2024. Ils ont été amenés à la Criette avant 8 heures dans deux véhicules différents. Leurs avocats, eux aussi, sont arrivés individuellement. Ils sont restés dans une salle d'attente avant d'être introduits dans le bureau du procureur spécial un peu plus tard. Selon nos informations, le colonel Dieudonné Tevoedre n'est pas présenté. On s'informe à présent au plan continental. Nawa Lakobi, bonsoir.
Angelo Sinou, bonsoir.
En Côte d'Ivoire, hausse importante du prix du cacao, plus légère néanmoins que le coût mondial.
Eh oui, le premier producteur mondial de cacao a monté le prix pour la grande campagne de commercialisation fixée ce lundi à 1800 francs CFA le kilo, équivalent de 2,7 euros, une augmentation importante par rapport à l'année dernière, alors que le prix de la fève a flambé sur les marchés mondiaux. La Côte d'Ivoire, même si elle se diversifie, progresse et affiche des taux de croissance parmi les plus élevés en Afrique de l'Ouest, reste encore très dépendante du cacao, contrairement au Cameroun, pour qui le cacao est une source de devises relativement secondaire. La Côte d'Ivoire a besoin de continuer à prélever sur le secteur, donc elle ne peut pas a priori se permettre d'augmenter et de laisser les prix du cacao filer aussi proche du coût mondial comme cela se produit actuellement au Cameroun. Les prélèvements sont jugés nécessaires.
Quittons la Côte d'Ivoire pour la RDC. Augustin Kabuya du parti présidentiel UDPS plaide pour une révision de la Constitution.
Eh oui, un débat autour de la Constitution refait surface en RDC. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, a tenu des propos lors d'un meeting populaire ce week-end qui suscite une vive polémique au sein de la classe politique et de la société civile en évoquant la nécessité d'une révision de la Constitution. Dans son intervention, Augustin Kabuya a plaidé en faveur d'une révision de la Constitution, estimant que celle-ci présente plusieurs lacunes. Selon lui, les 5 ans de mandat présidentiel ne sont pas effectifs. Une partie de cette durée a été consacrée, dit-il, aux négociations pour la formation du gouvernement. Et selon lui, cela réduit la durée réelle du mandat à environ 3 ans. Augustin Kabuya a également critiqué l'origine de la Constitution, affirmant qu'elle aurait été élaborés par des étrangers, un argument qu'il utilise pour justifier son appel à une révision. Ces déclarations ont rapidement été dénoncées par plusieurs organisations de société civile et des opposants.
Voici les sports.
Le journal, la page des sports.
Et nous allons retrouver Fidèle Latiogbe pour la page des sports. Celle sera en ébullition le week-end prochain et pour cause, les rideaux de la deuxième édition du tournoi U20 à Fosogbe vont tomber dans la soirée du dimanche 6 octobre 2024. Une finale alléchante et épique est prévue entre Sebo et Alogo pour les nouvelles de la Coupe du Monde de Maracana qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Le Bénin a joué son deuxième match des phases de poule dans la soirée d'hier face à la Guinée-Conakry. Les Guépards maracaniens ont été battus malgré leur détermination. Fidèle Atiogbe nous donne plus de précisions sur toutes ces informations sportives.
L'affiche de la grande finale du tournoi U20 à Fosogbe est désormais connue. Elle opposera la formation de Star FC de Sebo à celle de Abeille FC d'Alogo. Les deux équipes ont réussi à se hisser en finale de la deuxième édition de ce tournoi de football qui se dispute à Sebo dans la commune de Kouyogbe en sortant bien sûr le grand jeu lors des demi-finales jouées en aller et retour. D'abord, Star FC a éliminé Africa Sport FC de Sebo sur un score étriqué de 1-0 au match retour après avoir enregistré un nul de 1-1 au match aller. C'est pratiquement la même scène qui s'est déroulée dans l'autre demi-finale entre Abeille FC et AS Victoire de Serre. Après un nul et vierge 0-0 au match aller, les joueurs d'Alogo ont trouvé les ressources nécessaires au match retour pour venir à bout de leurs adversaires sur le score étriqué de 1-0. La finale est prévue pour le dimanche 6 octobre prochain au stade Abeille Sport de Serre. Mais avant le grand jour, c'est-à-dire la veille, samedi 5 octobre, il y aura le match de classement du tournoi U20 à Fosogbe entre AS Victoire et Africa Sport FC de Sey. Autre information à présent, la plage Novitia de Grand Popo a été le théâtre d'un match amical de Big Soccer. C'était bien sûr le samedi dernier. L'équipe de Maodono Sport A de la localité et AS Finance de Cotonou se sont bien retrouvés pour un duel de football à la plage qui a bien tenu toutes ses promesses. Ce match a été disputé bien sûr en 3 mi-temps et c'est bien les visiteurs qui ont été plus adroits en scorant par 6 fois contre 5 pour le club de Grand Popo. A noter que le match retour est prévu pour ce mois d'octobre 2024 à Cotonou. Et puis direction Côte d'Ivoire pour signaler que la première édition de la Coupe du Monde de Maracana se poursuit bien sûr en terre ivoirienne. Le Bénin a fait sa deuxième sortie des phases de poule hier face à la Guinée-Conakry. Dans ce duel âprement disputés, les Guépards maracaniens se sont inclinés sur le score de 2-3 et devront désormais battre forcément la France lors de leur troisième sortie des phases de poule pour valider leur billet en quart de finale. Malgré une deuxième sortie ratée dans cette compétition, le coach Juste Fleury Dansou et le joueur Jean Melmoz se montrent optimistes et promettent tout donner le mercredi prochain face à la France pour poursuivre leur aventure dans cette compétition. On les écoute.
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous sommes inclinés 3-2. Nous avons joué sans nos fondamentaux, c'est-à-dire les vertus habituelles que nous avons dans l'équipe du Bénin. Nous avons eu la chance d'avoir l'avantage du score 2 fois. Malheureusement, nous avons manqué de gérer un peu notre avance. C'est vrai que malgré la défaite, nous avons clairement toutes nos chances. À nous de savoir jouer contre la France et nous sommes en guerre, donc nous n'avons pas le choix. Nous allons, même s'il faut gagner dans la douleur, nous allons le faire pour passer en quart de finale.
Je crois que nous avons perdu une bataille et nous allons nous remobiliser parce qu'on a plus le choix. La seule alternative, c'est de gagner. Et nous allons nous battre avec nos âmes, mettre tous les atouts que nous avons de notre côté pour pouvoir arriver à bout de la France. Non, c'est un but totalement valide. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Seulement qu'il y aura juste des réglages à faire de façon interne que je ne vais pas dévoiler ici. C'est vrai que c'est une équipe. On ne peut pas tirer sur quelqu'un. Si on a perdu, si on a encaissé, on a encaissé ensemble. Bon, je crois que nous avons commencé le match en jouant comme nous l'avons souhaité, comme les coachs nous ont demandé. témoigné de le faire. On avait pratiquement la maîtrise du match. Je crois qu'à un moment donné, on a manqué de concentration. C'est ce qui nous a coûté ces trois buts que ma foi étaient largement évitables.
Il faut préciser que la France a obtenu déjà sa qualification en quart de finale après deux victoires en autant de sorties dans cette compétition.
Merci à vous fidèles à Tiogbe. Après l'institutionnalisation des classes sportives dans les lycées et collèges, le Bénin a lancé ce lundi 30 septembre 2023 la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans dans les écoles primaires et publiques. Désignée, la cérémonie de lancement s'est déroulée à l'EPP de Huékégbo dans l'arrondissement d'Askassato sous la houlette du ministre Benoît Dato, ministre des sports. Ici s'achève cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous, c'est Sévère Rompé à la partie technique. Angelo Sinou, je suis resté à la présentation. Au revoir.